Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mobilisation Générale. Dans 24 heures maintenant, la France sera officiellement libérée, déconfinée. Oui, mais vous l'avez compris, la liberté ne sera pas totale et nous allons voir ce matin dans cette dernière édition de Mobilisation Générale ce que l'on pourra faire et ne pas faire durant les prochaines semaines. Pour m'accompagner durant cette dernière, il est là avec moi, Guillaume Laniel. Salut Guillaume.
Salut Christophe.
Prêt au déconfinement.
Oui, on s'y fait.
On s'y fait,
c'est pas encore fait, mais... Oui. On s'y prépare en tout cas.
On a un peu d'inquiétude à voir ce qui va se passer demain, si les métros, les trains vont être pris d'assaut, s'il va à nouveau y avoir des embouteillages pour entrer dans les villes, si tous les gens vont porter leur masque. Et oui, parce que pour espérer se déconfiner, un seul mot d'ordre désormais, le masque, cet objet dont on parle depuis 8 semaines maintenant et qui sera donc indispensable à partir de demain dans beaucoup de lieux et notamment dans les transports, Guillaume.
Oui, ce sera l'une des nouvelles habitudes des Français, c'est vrai, ce port du masque. Est-ce que vous êtes parvenu à vous en doter? Car ça ne semble pas si évident que cela. Plusieurs initiatives ont d'ailleurs vu le jour, comme celle de la Fabrique du Ski, entreprise qui a réorienté son activité pour produire des masques. Son patron sera avec nous dans quelques instants. À 10h25, alors que de nombreux pays sortent progressivement de leur confinement, la question est d'actualité. Quels sont les dirigeants politiques qui, par leur gestion de la crise, ont certainement redoré leur image? Qui sont ceux qui ont sans doute négligé l'impact du coronavirus? Nous serons tout à l'heure avec le géopolitologue Pascal Boniface. 10h45, le terme de patient zéro était encore méconnu il y a peu de temps. Il s'agit de la première personne à avoir été infectée par le virus. Nous vous aiderons à comprendre pourquoi les médecins s'intéressent à l'identité des premiers malades. Le professeur Yves Cohen, qui affirme qu'un patient était atteint du Covid-19 dès décembre, sera avec nous. Et puis 11h, entre 11h et 13h, nous essaierons d'analyser le cas du continent africain, continent le moins touché au monde par le virus, alors qu'il y avait bon nombre de raisons de s'inquiéter. Pierre-Marie Girard, directeur des affaires internationales à l'Institut Pasteur, nous aidera à y voir plus clair. Enfin, les Français ont pris du poids, malheureusement, pendant le confinement. 2,5 kg en moyenne. Il est temps de réagir.
De quoi tu parles.
Il est temps de réagir. Je ne te vise pas, Christophe, et de retrouver notre poids de forme. Flore et Richard, nutritionniste, répondra à toutes vos questions sur RMC.
Depuis le 17 mars dernier, pas une journée ne s'est déroulée sans que l'on évoque donc cet objet avec lequel il va falloir apprendre à vivre, le masque sanitaire Sésame, devenu aujourd'hui indispensable alors qu'au début de la crise, on nous disait qu'il ne servait pas à grand chose et que ce n'était pas la peine d'en avoir. Oui, mais à l'époque, il faut le rappeler, les masques étaient une denrée rare et au fil du temps, eh bien, ils ont fini par faire leur apparition sur le visage de nos concitoyens. On estime à 33% le nombre de Français qui désormais portent un masque lorsqu'ils sortent de chez eux. Et demain, Guillaume, eh bien, il sera donc obligatoire et porté quasiment par tous les Français, en tout cas ceux qui vont reprendre le boulot et ceux qui vont prendre les transports.
Oui, exactement. Et tu l'as dit, cet objet est désormais dans l'esprit des Français. Il a été aussi l'objet de nombreuses polémiques après des déclarations pas toujours très claires de la part du gouvernement. Cette semaine, en tout cas, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a assuré que chaque Français sera en mesure de se procurer un masque. Lucas Vinoy, salut.
Bonjour Guillaume, bonjour Christophe.
Tu es allé vérifier si l'accès au masque est désormais plus simple.
En effet, hier j'ai arpenté les rues parisiennes, bravé le vent et la pluie. J'ai essayé de me procurer un masque. Alors au bout de 10 minutes de marche, je suis entré dans une première pharmacie. Je suis serein à ce moment-là, j'arrive au guichet et je pose la question fatidique. Avez-vous des masques ?
Non, on n'a pas de masque en vente, monsieur. Du tout. En vente, il n'y en a plus. J'ai regardé Carrefour et apparemment, la dame elle a dit qu'ils vont de Carrefour. C'est la grande distribution plutôt, hein. Chercher la grande distribution, il y en a.
Bon, c'est raté. Je suis les conseils de cette pharmacienne et fais cap sur un magasin alimentaire. Mais sur ma route, que vois-je? Un bureau de tabac. Je me dis, allez, je vais aller questionner le buraliste.
Pour nous, les buralistes, la Confédération, c'est saturé. Et puis, on a toujours la possibilité de commander, donc c'est par lot de 200 masques. On prélève l'argent. Et livrer quand? On ne sait pas. Donc, il y a plein de buralistes qui se sont fait avoir. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu pour le moment.
Bon, encore raté. Je ne perds pas espoir. Un supermarché sur la route, 29,90 €. Les 50 masques. Bon, je vais vers une autre pharmacie. Des masques sont disponibles. C'est marqué en gros sur la vitrine. Mais avant de se renseigner sur ce qui est disponible ou pas, on se fait un peu engueuler.
Il faudrait, s'il vous plaît, un petit peu maintenir les distances, parce que là, vous êtes un petit peu tous un peu trop près.
Bon, on s'est écarté, je suis un peu novice en matière de masque, je demande l'avantage du masque en tissu.
Le lavable, bon, quoi qu'il arrive, un masque, il ne faut jamais le toucher au milieu. Le lavable, il est...
Bon, c'est un peu chiant, on ne va pas aller au bout de la thèse sur les masques en tissu. Le nerf de la guerre, c'est l'argent.
Vous l'avez celui-là, il est garanti pour 20 lavages, 10,90€. Celui-là, c'est de l'usage unique. Hein. Celui-là, il est à 90 centimes le masque.
10,90€, 20 lavages, ça fait 54 centimes par utilisation du masque. Je décide de faire jouer la concurrence.
Le masque tissu, ceux que j'ai là, ils sont homologués pour 10 lavages. C'est 5,90€ pièce, ça fait 59 centimes l'utilisation en fait. Et un avec l'élastique derrière la tête et non pas derrière les oreilles. Et sinon, les masques jetables, ils sont par boîte de 50. Et c'est 45,50€ la boîte de 50. Ça fait 91 centimes l'unité.
Bon, 5,90€, 10 lavages, ça fait 59 centimes par utilisation du masque au lieu de 54 avant. Mais ils sont un peu plus chers, c'est vrai, mais plus jolis. L'habit ne fait pas le moine, mais quand même, surtout les masques seront réutilisables. Solution donc plus économique que les masques chirurgicaux et surtout plus écologique.
Le masque n'a plus de secret pour Lucas Vinoy, c'est une certitude. Lucas, où doivent aller les Français rapidement qui n'ont pas encore de masque pour demain ?
Voilà, alors il est possible d'acheter des masques en tissu ou chirurgicaux dans les supermarchés. Ils sont trouvables en caisse. Bien évidemment, vous en trouverez aussi en pharmacie alors que Christophe Cessieux fait le pitre et vient de mettre son masque. Chez les buralistes, pour ceux qui en ont, et au bureau de poste, il n'y a pas de tarif par contre qui encadre les masques en tissu. Ça peut aller de 1 jusqu'à 10 euros et ce en fonction du nombre de fois où ils sont réutilisables. En revanche, les masques chirurgicaux sont plafonnés à 95 centimes l'unité. À Paris, Anne Hidalgo a annoncé que chacun pourra en récupérer dans les pharmacies à partir du 11 mai, date du déconfinement, après réservation sur le site de la ville et obtention d'un bon de retrait. Au total, il y aura 906 points de vente disponibles à travers la capitale.
Je peux vous dire qu'en ce moment, les mairies d'arrondissement à Paris sont en train de se fournir. Je connais quelqu'un qui en a livré par exemple 9000 hier soir à la mairie du 15e arrondissement. Et il y en a d'autres comme ça qui livrent. Et donc vous pourrez bientôt trouver ces masques gratuitement ou non. En tout cas, tout le monde cherche les masques. Alors si les soignants sont tous équipés, le reste de la population fait un peu comme il peut en se fournissant soit en pharmacie, on l'a vu, soit dans les grands magasins en masques dits grand public. Ces morceaux de tissu plus ou moins réussis qui équipent le visage des Français, des masques. Beaucoup d'entreprises désœuvrées par le confinement se sont résolues à fabriquer. C'est le cas de l'entreprise la Fabrique du Ski, petite PME spécialisée, comme son nom l'indique, dans la fabrication de planches de ski et qui équipait notamment notre grande gueule skieuse Marie Martineau. Et aujourd'hui, si le nom de l'entreprise n'a pas changé, en revanche, les objets fabriqués, eux, ne sont plus les mêmes. Nous sommes en ligne avec Christian Allary, qui est le patron de la Fabrique du Ski. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bonjour, merci de me recevoir.
Eh ben, je vous en prie, votre initiative est une bonne initiative. Comment vous est venue l'idée? Même si on fabrique des skis, on se dit pas que ça peut ressembler à la fabrication de masques. Est-ce que vous avez dû vous adapter et comment vous avez fait?
Strictement, ça n'a rien à voir. Strictement, ça n'a absolument rien à voir de fabriquer des skis ou des masques. Comment on a fait? Déjà, d'où vient l'idée? Comment ça nous est venu et pourquoi on a fait ça? Je pense que ça vient des fondements même de la Fabrique du Ski. Quand on a créé la Fabrique du Ski il y a 6 ans, j'ai totalement craqué en fait. Ma vie d'avant, c'était directeur industriel, directeur R&D. Je produisais des skis partout dans le monde, sauf en France. Et à la naissance de ma fille, je crois que j'ai percuté que ce que je faisais, c'était pas très bien, que j'avais besoin de plus de valeur, plus de sens dans ce que je faisais. Et j'ai décidé de contacter deux amis pour créer la Fabrique du Ski. Ils étaient à fond avec moi pour faire du Made in France, relocaliser en France parce que ça n'existait quasiment plus en France. Et ensemble, on a créé la Fabrique. On était tous des anciens salariés de pays étrangers. Moi, j'avais été salarié aux États-Unis et j'avais été confronté à l'absence de système social, à des vieux qui ont passé l'âge de la retraite et qui boitent parce qu'ils n'ont pas eu de soins et qui sont obligés de continuer à travailler. Et je crois que c'est pour ça que je voulais refaire de la fabrication en France, refaire de la Fabrique du Ski. Et à l'aube du confinement, à l'aube de la maladie, quand elle est sortie, on sautait dans notre atelier en se demandant ce qu'on allait faire pour aider. Et on a cherché vraiment ce qu'on pouvait faire. Et ce qui nous semblait le plus évident, c'était des masques. Et pas très loin de chez nous, à Villard-de-Lans, un jeune qui s'appelle Clément Jacquelin avait une idée de faire des masques réutilisables, c'est-à-dire lavables, 100% lavables. Et uniquement les filtres étaient interchangeables et jetables. Et ça prenait beaucoup de sens pour nous qui prenions un peu le respect de la planète, que les produits doivent arrêter de faire des dizaines de milliers de kilomètres. Donc de faire du non jetable, c'était super. C'était une initiative très belle. On l'a contacté très vite. On a travaillé ensemble. On a on a évalué son produit, on a regardé ce qu'on pouvait faire nous de notre côté à la fabrique du ski, comment accélérer les productions, les cadences. On a fait appel à nos amis, à des bénévoles pour nous aider à produire ces masques parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre dans des masques réutilisables. Ce sont des coques rigides qu'on assemble avec beaucoup de composants. Et progressivement, la demande était de plus en plus croissante. On a fait de plus en plus de masques. C'était tous les jours de l'assemblage. Nous, on produisait des éléments. Il y avait une maison où il y avait des retraités dedans qui assemblaient des masques tous les jours et qui continuent encore aujourd'hui. Et puis l'aventure a été lancée. Et puis sous fond de crise qui n'était pas très jolie, ben c'était une belle aventure humaine et à laquelle on était vraiment content de participer.
On sait donc ce sont des masques lavables, réutilisables, hein, Christian. C'est ça pour le grand public. Combien ils coûtent déjà vos masques ?
Combien ils coûtent nos masques ? Alors, combien ils coûtent nos masques ?
Oui. Ils coûtent. Ils sont pièges.
Combien ils coûtent nos masques ? Eh ben, ils coûtaient rien. Ils ont pendant longtemps coûté rien parce que ouais. C'est une démarche qu'on voulait solidaire. On voulait pas tirer profit de cette démarche-là sur fond d'une crise sanitaire. Ça nous semblait vraiment pas logique. On faisait ça pour aider parce que ça faisait partie de notre ADN et de ce qu'on voulait faire. On voulait participer à aider. Donc au début on l'a fait avec nos deniers personnels. Très vite il y a eu une forte demande, donc on a fait appel à des dons et qui sont venus de partout, des bénévoles énormément. Je pense qu'il y a une soixantaine de bénévoles sur le plateau du Vercors et ailleurs qui nous ont aidés à faire de l'assemblage des pièces, les imprimeurs 3D qui nous sortaient des pièces de partout en France et qui nous les expédiaient, des entreprises du bassin grenoblois comme STMicroelectronics ou Schneider qui sont venus nous aider. Donc non, il n'y avait pas vraiment de démarche commerciale. On a commercialisé un petit peu, mais c'était juste pour...
Mais et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, toujours pas pour le moment.
D'accord, ok.
Toujours pas pour le moment, mais une des entreprises qui nous a aidés s'appelait Cérémy. On peut pas fonctionner avec des bénévoles en permanence. Donc cette entreprise-là va reprendre la production des masques. On va continuer à lui produire des éléments, nous à la fabrique du ski, et ils vont pouvoir les diffuser essentiellement aux professionnels. Nous, quand on vendait à l'époque, c'était autour de 35 €, mais maintenant qu'on va maintenant qu'il n'y a plus de bénévoles, bien sûr, ça sera plus
bien sûr.
Prix. Donc je pense que ce sera autour de 65 € qui va les commercialiser pour les entreprises.
Combien ? 65 €?
65 €.
Pour combien de masques ?
C'est un masque à l'unité, mais par contre qui est réutilisable à l'infini.
D'accord.
Ah, à l'infini.
D'accord. Très bien.
Et bon, oui, on s'est dit que dans une démarche un peu plus écologique et durable, il fallait pas forcément aller vers du jetable.
Et peut-être économique du coup, parce qu'effectivement, si on peut le garder. Ad vitam aeternam, si j'ose dire.
Je pense que oui, ça se réfléchit, ouais. Ah ouais, bien sûr, ça se réfléchit et ça se regarde.
Très bien, merci beaucoup Christian pour cette belle démarche. Eh ben, vous avez quand même l'espoir de refabriquer des skis, un de ces quatre ou...
Bah, on va s'y remettre très très tôt, j'espère. Ça reste notre cœur de métier et ce qu'on aime faire. Donc pourvu que ça reparte.
Bah oui, on l'espère évidemment. Merci beaucoup Christian,
merci
bravo pour cette belle démarche. Donc des masques, peut-être un peu chers, mais utilisables à l'infini et qu'on pourra garder pendant 20 ans pendant que le virus va continuer à circuler. On va accueillir Hubert qui est au 32-16. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Hubert, je crois que vous habitez à Béziers, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Plus proche de Agde.
Plus proche d'Agde. Bon, oui. Il fait pas très beau, paraît-il, ce matin, dans le sud.
On a un temps couvert. Voilà.
Très bien. Hubert, est-ce que vous êtes équipé en masque ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes prêt à sortir demain, à affronter à nouveau la population ?
Alors, non. En fait, on n'est pas équipé. On a du mal à trouver des masques sur la Gatois. En ayant fait tout le système, le circuit de distribution, hein, buraliste, pharmacien. On a même été jusqu'à voir les grossistes en paramédical, grande distribution, et pas de masques.
Nulle part.
Ah ouais,
donc
non.
Tout ce que vous
non,
avez
non.
fait.
On va vous, en, vous, on en va vous envoyer du Lucas Minois, vous avez vu notre enquêteur, lui, il a trouvé. Hein.
Après, c'est vrai que pour demain, je veux dire, j'ai eu cette chance que mon employeur nous a donné une dizaine de masques à titre personnel pour pouvoir justement aller faire des courses et pouvoir faire quelques démarches administratives avec du voilà, mais non, en fait, on a énormément galéré et on galère encore pour trouver que ce soit des masques chirurgicaux ou des masques lavables.
Mmh. Donc pas de masque lavable, pas de masque grand public, ni dans les supermarchés, ni dans les bureaux de tabac, ni dans les pharmacies.
Non,
votre région. C'est
jusqu'à la semaine dernière, de cette semaine en fait, jusqu'à la fin de la semaine, là, on était encore en quête à chercher panneaux sur les pharmacies, pas de masque ou plus de masque. Compliqué.
C'est le cas d'autres personnes de votre commune avec lesquelles vous avez pu discuter, Hubert ? C'est un sentiment général, cette difficulté à se préférer des masques ?
Oui, avec le peu maintenant de gens que je contacte, hein, donc ce sont des gens, on va dire, proches géographiquement, qui sont les voisins, où je sais qu'ils ont aussi du mal à chercher, à trouver, quoi. Avec une inquiétude, hein, parce qu'il y a quand même des gens vieillissants et une inquiétude. Donc eux encore, ils arrivent à rester le plus possible confinés, mais la semaine prochaine, je ne sais pas comment ils vont faire.
Ok, on voit que c'est inquiétant tout ça. Merci Hubert en tout cas d'être venu au 32-16. Vous n'avez pas pensé à vous mettre à la couture par hasard ?
Non. Alors, je suis pas très manuel, je suis pas très technique. Non. C'est vrai que ce serait une démarche. Mais après, il faut gérer ça et avoir un côté optimiste. Et j'ai adoré le témoignage que vous aviez juste avant sur le Made in France, où c'est vrai que c'est dommage qu'il faut attendre. Si j'ai 2 minutes,
allez-y.
À continuer à faire dans le Made in France et à dire à tous les concitoyens français d'acheter français. Voilà. C'est vrai que ça a un coût, mais on a une qualité que on ne trouve pas ailleurs. Et voilà, mettre 65 euros dans un masque utilisable à vie, je trouve ça un très bon investissement plutôt que d'acheter à 40 centimes ou 30 centimes des masques chirurgicaux jetables qui viennent de loin, qui ont pris des cargos, qui ont pris des avions avec un taux de CO important, alors qu'on a des entreprises et des gens prêts à nous fournir tout ça. Et je parle de masques comme de ski, comme de t-shirts, de vêtements.
Bien sûr.
Je prends le Made in France.
Voilà. Très bien, vous avez bien raison. Merci beaucoup Hubert. Alors, si Hubert ne s'est pas mis à la couture, en revanche, il y en a d'autres qui s'y sont mises. C'est le cas de Marie-Liesse qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Marie-Liesse.
Bonjour Christophe.
Alors Marie, je crois que vous êtes styliste de formation. Faites de l'upcycling, c'est ça ? Racontez-moi ce que c'est, parce que ça c'est des formules un peu compliquées pour moi. C'est-à-dire vous retravaillez les anciens vêtements et vous leur redonnez une vie nouvelle ?
Exactement, c'est que j'achète en fait, ma collection est plutôt basée en ce moment sur des chemises d'hommes que j'achète, qui ont déjà eu une première vie, et moi je leur donne une deuxième vie en les recoupant, en les stylisant, en leur mettant des accessoires, et je crée des chemises d'hommes pour les femmes.
D'accord.
Parce que je considère qu'il faut être engagé, surtout par les temps qui courent. Et je viens d'entendre la personne qui témoignait avant moi. Je commence à prôner aussi le Made in France et pour que l'impact sur le CO soit minime, effectivement.
Alors Marie, vous recyclez les chemises d'hommes et vous en faites aussi des masques, hein, puisque vous avez décidé. Alors vous le faites pas à échelle industrielle, vous le faites à l'échelle de votre famille, de vos amis proches, à qui vous avez fourni des masques depuis quelques jours, et ça n'arrête pas. C'est un véritable atelier clandestin chinois à la maison, paraît-il.
Exactement, c'est que tout le monde s'y est mis, il faut couper, il faut repasser, il faut assembler, il faut coudre, il faut accessoiriser, parce que je leur rajoute une touche un petit peu, sexy, un peu sympa, quoi. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais à la fois les enfants s'y mettent, les amis s'y mettent, et c'est très sympa, mais ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps, mais on a des masques unique.
Bah ouais.
Et ça va être la classe demain quand on va sortir avec ce masque, hein. C'est aussi les deux. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va avoir un masque, oui. En plus, on va avoir le look qui va avec. Ces masques qui sont réutilisables, Marie-Liesse, et si oui, combien de fois pour les auditeurs qui nous écoutent?
C'est utilisable autant de fois que vous voulez à partir du moment où vous le stérilisez vous-même. C'est-à-dire que soit vous le lavez, ou soit effectivement, j'ai un ami qui m'a parlé d'une technique qui pourrait marcher, il faut vérifier. Donc je ne veux pas trop m'engager, mais vous mettez le masque au-dessus de la vapeur en le tenant avec des fourchettes, et ça a raison de, je crois, 15 secondes ou une minute, pour que le masque, au lieu de le laver, vous puissiez le stériliser.
D'accord. Donc mais autrement, on peut les laver ces masques de toute manière. Mais est-ce que vous mettez une couche entre les deux couches de tissu, parce que c'est ce qui fait la différence en quelque sorte, parce qu'on peut
exactement
utiliser du tissu.
Alors il y a un test qui est très intéressant, c'est que alors les masques que l'on fait ici à la maison, c'est que on met 4 couches de tissu. Je prends des tissus très fins, donc du voile de coton ou bien un coton tissé très fin, et à l'intérieur je mets un tissu qu'on appelle la viscose, qui est un tissu qui n'est pas naturel, hein, qui est à base de pétrole effectivement, mais les mailles sont très serrées, ce qui permet de ne pas laisser passer le microbe, j'espère en tous les cas, mais ce qui est une véritable barrière en fait pour l'extérieur. Et il y a un bon test qu'il faut faire, c'est que quand vous faites un masque, vous prenez une bougie en face de vous, et si la flamme ne bouge pas, ça veut dire qu'effectivement ce masque est vraiment efficace.
Ah, si vous soufflez à travers le masque et que la flamme ne bouge pas, c'est que c'est efficace.
Exactement.
Très bien.
Voilà.
Bon, on peut pas les acheter vos masques. Vous les vendez pas, Marie?
Si, je les vends, mes masques. Vous pouvez aller sur mon Instagram, bien sûr. Alors, ils prennent du temps. Moi, c'est pas du tout une échelle industrielle. Ils sont personnalisés. On peut même les assortir à vos tenues si vous voulez. Et vous pouvez aller sur ma page Instagram qui est maricolors-fr.
Et quel tarif, rapidement?
Alors, le tarif, je pense qu'ils vont tourner autour de 20-25 euros à peu près.
Ah oui, quand même. Mais bon, c'est moins cher que les masques à 65
oui.
euros.
Ah oui, quand même.
Et puis là, c'est un accessoire de mode, en quelque sorte, parce qu'on va apprendre aussi à voir beaucoup de gens avec des masques. Et je suis sûr qu'il va y avoir pas mal de bonnes surprises dans les rues de France. Merci Marie, bravo pour cette initiative.
Merci Marie,
m'en a fabriqué un, regardez, parce que je la connais, c'est une copine à moi.
On en voit un,
regardez,
ouais, on en voit un sur le visage de Christophe, Marie. Hein. C'est joli.
Ah, c'est très joli, voilà, avec des petites fleurs. J'en ai essayé plusieurs modèles et j'ai pris
celui-ci. Va bien, ouais.
Très bien, merci Marie, on t'embrasse. 10h27 sur RMC. Dans un instant, on change complètement de sujet, Guillaume, et on va juger nos politiques.
Ouais, question essentielle, hein, alors que de nombreux pays sortent progressivement de leur confinement, quels sont les dirigeants politiques qui ont été à la hauteur? Pour nous éclairer, Pascal Boniface, géopolitologue, dans quelques instants. 10h28, on est de retour dans quelques instants sur RMC.
RMC, mobilisation générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
Mobilisation générale, la dernière aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec Guillaume Laniel et avec tous nos spécialistes qui nous rejoignent pour évoquer les différents aspects de cette crise mondiale. Si tous les pays du monde ont été ou seront touchés par l'épidémie, certains d'entre eux s'en sortent bien mieux que d'autres. Alors, il y a, c'est vrai, peut-être une part de chance pour certains, mais ce n'est pas le facteur essentiel. Non, Guillaume, si certains pays ont mieux affronté la crise que d'autres, c'est aussi en raison des décisions politiques prises par les dirigeants, qu'ils soient actuels ou anciens, car évidemment, les politiques sanitaires se conçoivent longtemps à l'avance. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons Pascal Boniface, le géopolitologue bien connu, fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Bonjour Pascal, merci d'être avec
Bonjour.
Nous. Pascal, avant de prendre des exemples concrets pays par pays, un mot sur les dirigeants politiques de notre planète en général. C'est la première fois que le monde, mis à part peut-être lors des guerres mondiales, doit affronter une crise de ce genre. On aurait pu imaginer, rêver d'une sorte de consensus à l'échelle planétaire pour lutter contre le virus. Il n'en a rien été. On a même l'impression d'une sorte de cacophonie. Est-ce que le monde politique va en sortir grandi de cette crise, selon vous ?
Non, enfin, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, mais comme vous l'avez dit, dans une guerre mondiale, on est opposés l'un à l'autre. Donc, que l'on se combatte fait partie de l'ordre du chose. Mais par rapport au Covid-19, comme par rapport au sida, il n'y a pas d'un côté ceux qui sont pour, d'autres ceux qui sont contre. On aurait dû être tous ensemble. Et ce à quoi on a assisté, c'est avant tout un bras de fer sino-américain. Chinois et américains, au lieu de mettre de côté leur querelle stratégique pour faire face en commun à la crise, ont préféré escalader leur opposition. Et donc, effectivement, c'est quand même un spectacle un peu triste de voir qu'au lieu de coopérer ensemble, les deux premières puissances mondiales ont continué leur querelle stratégique.
Il y a pourtant un outil à l'échelle planétaire qui aurait pu et dû donner des consignes à tous les dirigeants de la planète, consignes qui auraient dû être suivies, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais à l'image de l'ONU dans d'autres domaines, son influence est restée assez limitée. Ces directives ont même été rejetées par les uns, je pense aux États-Unis. Est-ce que c'est injuste pour vous? Est-ce qu'il aurait fallu donner plus de pouvoir et comment donner plus de pouvoir à un tel organisme?
Alors on ne peut pas donner plus de pouvoir, il faudrait que l'OMS puisse faire de l'ingérence dans la politique sanitaire des États, et c'est bien sûr impossible. Donc l'OMS peut donner des conseils, peut de faire des recommandations, ce qu'elle a fait. Dès fin janvier, l'OMS a mis en garde, alors qu'à l'époque il n'y avait pas de mort en dehors de la Chine. Mais tous les pays n'ont pas voulu suivre ces préconisations, pas seulement les États-Unis, mais d'autres aussi. Donc l'OMS, en tant que telle, a fait son boulot d'alerte par rapport à la pandémie, mais elle est prisonnière des États qui la composent. On a même vu que les Américains, l'accusant d'être trop proche des Chinois, ont même coupé le financement de l'OMS, ce que Bill Gates a partiellement attrapé, puisque lui a fait une très forte contribution à l'OMS et a démenti un peu les accusations de Donald Trump à l'égard de l'OMS.
La contribution américaine, Pascal, si je ne dis pas de bêtises, c'est 400 milliards de dollars par an. Hein.
400 millions de dollars.
Oui, excusez-moi, 400 millions de dollars par an.
Le budget global de l'OMS, c'est 4 milliards environ de dollars. Et du coup, effectivement, alors bon, peut-être que l'OMS n'a pas été parfaite, mais on peut penser que les critiques que Trump a fait à l'OMS étaient en fait des critiques, je dirais, récurrentes de Trump par rapport à l'ensemble du système multilatéral et des organisations internationales.
Pascal, en France, certains ont manifesté l'intention de demander à nos dirigeants des comptes devant la justice après la crise. Est-ce que ces poursuites ont des chances d'aboutir et que risquent nos politiques? Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays ou alors c'est uniquement un cas français?
Il peut y avoir quelques exemples dans d'autres pays parce que les plaideurs sont nombreux. Je pense que juridiquement, l'affaire a peu de chances de prospérer et que c'est surtout un signal politique. Le jugement des gouvernements, il doit se faire sur le plan politique. Je ne suis pas sûr que juridiquement, la plainte aboutisse et que le ministère de la Justice fasse aboutir cette plainte.
Alors, on va prendre maintenant des exemples concrets, Guillaume, en évoquant les décisions prises par les différents pays, les politiques menées, ceux qui s'en sortent avec brio, ceux qui sont un peu limites, et puis les derniers passés complètement à côté du sujet.
Oui, on va parler en premier lieu des pays qui, par leur anticipation, par les mesures prises par leur gouvernement, ont réussi à s'en sortir mieux que les autres. Julien Landry nous a rejoint. Salut Julien.
Bonjour messieurs.
Bonjour Julien.
Avec des méthodes parfois différentes, il y a plusieurs pays qui ont passé la crise sanitaire en limitant les dégâts.
Ouais, alors même si c'est jamais facile de faire un classement, on va le faire, quand même le faire d'ailleurs Donald Trump lors de ses conférences de presse. C'est vrai que l'Allemagne, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Danemark ou la Nouvelle-Zélande ont un faible taux de mort aujourd'hui. Tous ces pays ont eu des stratégies différentes. Hein. L'Islande, par exemple, a proposé un dépistage gratuit pour tous. Un Islandais sur 10 aujourd'hui a été testé. Taïwan avait anticipé avec des prises de température dans ses aéroports bien avant la propagation mondiale du virus. Dépistage massif en Allemagne et mise en quarantaine des personnes infectées. En Norvège, au Danemark ou en Nouvelle-Zélande, la communication a été axée sur les enfants avec notamment des conférences de presse exclusivement réservées aux petits, des stratégies différentes, donc un résultat concluant et un point commun pour ces pays. Ils sont tous dirigés aujourd'hui par des femmes.
Eh oui, c'est vrai que c'est un phénomène étonnant. Pascal Boniface, les femmes politiques s'en sortent très très bien. C'est le cas notamment d'Angela Merkel en Allemagne, dont le taux de popularité ne cesse d'augmenter. Elle est vraiment l'exemple à suivre pour beaucoup d'hommes politiques et de dirigeants dans le monde.
Alors Angela Merkel, c'est la moutie, c'est la maman de l'Allemagne, effectivement. Et comme en plus, elle n'a plus d'ambition politique, elle a annoncé la fin de sa carrière, forcément, sa cote de popularité augmente. On est toujours plus populaire quand on dit qu'on va cesser de la politique que quand on dit que l'on va continuer à en faire. Il faudrait quand même ajouter à ce tableau la Corée du Sud, qui est dirigée par un président. Et je pense aussi ce que ont en commun beaucoup de ces pays, et c'est le cas notamment de l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne a de meilleurs résultats que la France? C'est pas du tout à cause de son organisation décentralisée, les Länder, au contraire. C'est simplement que l'Allemagne a un meilleur appareil industriel, que l'Allemagne a su garder son industrie, contrairement à la France, et qu'elle s'est trouvée moins dépourvue. Et puis, dans le cas de Taïwan, de la Corée du Sud, il y a, disons, une et de et de Singapour, il y a en fait une habitude à cela. Je pense aussi que dans les pays occidentaux, notamment en France, on s'est dit, et aux États-Unis et ailleurs, on s'est dit, bah, les pandémies, c'est pas pour nous, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Asie. Mais nous, on est des pays riches, développés, avec de bons systèmes de santé, donc ça ne passera pas par chez nous. Et là, on a certainement un peu péché par orgueil par rapport à cette pandémie, on l'a prise de haut. Et quand les Chinois ont confiné des millions de personnes, notre réaction, c'était de dire, attention, il y a un danger sanitaire. Non, notre réaction, c'était de dire, oh, c'est une dictature, donc c'est normal qu'ils empêchent les gens de circuler librement. On a fait la même chose.
Ouais. Un tout petit mot sur une autre femme politique, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui elle aussi a pris des mesures énergiques en tout début de crise. Bon, c'est un tout petit pays qui en plus bénéficie de l'isolement, puisque c'est une île au bout du monde. Mais dans son pays, elle est très populaire parce que elle a été très proche des gens. Elle a, au lieu de faire des grandes déclarations, elle est allée discuter avec ses concitoyens sur le net, sur Facebook. Et elle ressort grandie de cette crise
totalement sanitaire. Totalement. C'est vraiment l'exemple même du leadership positif, qui n'est pas un leadership de testostérone, qui n'est pas un leadership agressif, mais qui est un leadership par l'exemple. Par l'exemple et par la proximité et par la cohérence aussi de sa communication. Elle n'a pas varié dans sa communication. Et puis si elle fait des erreurs, elle les admet. Et donc c'est déjà nettement mieux. Donc les gens lui font confiance. Il faut rappeler que c'est déjà Jacinda Ardern qui avait extrêmement bien géré les attentats de Christchurch l'an dernier. Donc c'est effectivement une femme politique exceptionnelle. Bien sûr, la Nouvelle-Zélande était un peu à l'écart des grands mouvements de la mondialisation, mais on voit bien là qu'un pays, on peut très bien avoir un dirigeant modeste et en même temps extrêmement efficace et qui est unanimement respecté dans son pays.
Très bien, voilà donc pour la Nouvelle-Zélande, la Corée, l'Allemagne, des pays qui s'en sont plutôt bien sortis jusqu'à présent. Mais malheureusement, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la majorité des pays, hein, Guillaume.
Exactement, il y en a qui ont plus souffert. En Europe, on pense évidemment à trois pays. La France, l'Espagne et l'Italie. Ce sont tout simplement, Julien Landry, les trois pays européens les plus touchés en termes de victimes, juste derrière le Royaume-Uni.
Ouais, mais comme l'a dit Pascal, c'est des pays qui ont mis du temps à réagir, pensant qu'ils étaient peut-être épargnés par cette pandémie avant finalement d'imposer un confinement plus ou moins strict en fonction des pays, avec notamment des fermetures de frontières assez rapidement. Aujourd'hui, le nombre de décès diminue dans ces pays, la propagation du virus ralentit, même si des nouveaux foyers ont été détectés hier, comme en Dordogne par exemple, mais le déconfinement est programmé avec des particularités. Par exemple, hier, le gouvernement espagnol a expliqué que ni Madrid ni Barcelone ne passeront à la nouvelle étape du déconfinement prévu demain, estimant qu'il fallait prendre le temps pour éviter que le virus n'augmente de nouveau.
Donc la France, l'Italie, l'Espagne qui vont payer un lourd tribut à la crise. On va évoquer le cas de notre pays dans un instant. Pascal, un mot tout d'abord de nos voisins italiens et espagnols durement touchés. Est-ce que la défiance vis-à-vis de Pedro Sanchez, espagnol, de Beppe Conti, son homologue italien, sont les mêmes que celles que l'on rencontre en France en ce moment, ou au contraire, il y a un peu plus d'empathie, de sympathie plus exactement pour ces hommes politiques qui ont géré comme ils ont pu?
Oui, effectivement, on voit que il y a une spécificité française de défiance à l'égard des dirigeants vis-à-vis de la crise du Covid-19. Défiance qui est nettement moins grande en Italie, en Espagne, y compris d'ailleurs au Royaume-Uni, on y reviendra tout à l'heure. Et effectivement, le Premier ministre italien et aussi Pedro Sanchez en Espagne ne portent pas aux yeux de leur opinion la responsabilité de la crise ni le prix à payer de la crise. Et donc, il faut dire aussi que leur opposition n'est pas tellement populaire, qu'il y a un vide de l'opposition. Salvini en Italie a quand même une crédibilité qui est forte pour ses partisans, mais qui est limitée pour le reste, et le Parti populaire est un petit peu éparpillé façon Pulse en Espagne.
Mmh. 10h40 sur RMC, vous êtes bien dans Mobilisation Générale. Pascal Boniface, géopolitologue, est avec nous. Pascal, en France, on a vu que la confiance envers Emmanuel Macron avait enregistré une baisse de 5 points selon un sondage récemment effectué. 61% des Français ne font pas confiance au président de la République. Il y avait eu évidemment, avant cette crise sanitaire, la crise des gilets jaunes. Est-ce que ce que traverse la France depuis 8 semaines est une mauvaise nouvelle pour le président de la République en vue d'une éventuelle réélection dans, dans quelques années.
Clairement, alors disons que pour une réélection qui peut se passer d'ici 2022, on a très bien vu lors de la dernière élection que les pronostics 6 mois auparavant et 2 mois auparavant n'étaient pas du tout les mêmes. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Mais il est certain qu'il y a une crise de popularité pour le président qui a déjà été affecté par la grève des transports en novembre, décembre et début janvier, les gilets jaunes l'an dernier. Donc c'est la troisième crise. Bien sûr, il ne peut pas être tenu responsable de la crise, mais les Français semblent être plus critiques de la gestion qui a été faite, avec une communication qui n'était pas toujours d'une transparence absolue, ni d'une cohérence absolue, avec des allers-retours. Et donc, il y a
trop d'interlocuteurs, Pascal, trop d'interlocuteurs, trop de prises de parole différentes.
Aussi, ouais. Trop de messages différents. Avec sur bon l'épisode des masques quand même et a été un petit peu croquignolesque, dire qu'ils étaient pas nécessaires parce qu'on en avait pas. Les gens ont compris que le problème n'était pas tellement que les masques n'étaient pas nécessaires, c'est qu'on en avait pas. Alors que tous les rapports, les livres blancs sur la défense, les rapports stratégiques qui s'empilent les uns sur les autres avaient prédit, avaient évoqué la possibilité d'une telle crise et qu'on sait très bien que les stocks de masques ont été détruits.
Voilà pour la France. On va s'intéresser maintenant aux mauvais élèves de la classe, parce que bon, on peut pas dire que la France, l'Italie, l'Espagne s'en sortent avec la moyenne, mais il y a d'autres pays qui là sont au fond de la classe. Julien, on pense évidemment aux États-Unis, mais pas que.
Pays qui n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation dès le départ. On pense bien entendu à la Grande-Bretagne avec Boris Johnson qui ne voyait pas l'intérêt du confinement. Le Premier ministre a été absent depuis un mois après avoir contracté le virus et aujourd'hui il se veut ferme en repoussant toute idée d'assouplissement. Il y a aussi le Brésil ou la Belgique qui serait le pays dont les habitants meurent le plus du Covid, mais c'est l'un des seuls pays à procéder aussi au décompte le plus exhaustif possible en intégrant les décès survenus dans ses 1500 maisons de retraite sans avoir pu certifier que ceux-ci sont bien dus au coronavirus. Et bien sûr, les États-Unis où le bilan journalier n'est pas passé sous les 1000 morts depuis le 1er avril. Le pays est bloqué sur un plateau et il n'arrive pas à en redescendre. L'épidémie semble ralentir à New York qui reste l'épicentre, mais le virus se propage dans d'autres États. Pourtant, Donald Trump a commencé à amorcer le déconfinement pour essayer de relancer l'économie.
Voilà, quand on pense mauvais élèves, évidemment le visage de Trump apparaît en tête de file. Pascal, on savait le président américain inconséquent, pas vraiment à la hauteur. Cette crise a confirmé les craintes. Pourtant, il reste populaire. Il pourrait même être réélu dans quelques mois et on a même l'impression qu'il est en perpétuelle campagne électorale, même en période de crise comme c'est le cas actuellement aux États-Unis.
Ah, mais il est en campagne électorale depuis qu'il est rentré à la Maison-Blanche. Ça n'a pas cessé. Donc, il continue effectivement. Il y a ces deux images terribles quand même pour les États-Unis. C'est que le nombre de morts a dépassé celui de la guerre du Vietnam. Donc, c'est un choc psychologique. Et puis, les fosses communes à New York quand même. Les fosses communes, on peut s'attendre à ça en Haïti, au Zimbabwe, pas à Big Apple quand même. C'est quand même terrible. Mais effectivement, Donald Trump continue, rejette la responsabilité sur les Chinois, ce qui plaît à une partie de son électorat, et puis communique sur le fait que pour faire repartir l'économie, c'est sur lui qu'il faut compter, parce que lui a les capacités, il ménage toujours un discours extrêmement optimiste et volontariste. On va bien voir, c'est encore trop tôt, je pense, pour faire des pronostics. Est-ce que Biden va faire une bonne campagne? Est-ce que cette affaire de... Est-ce que les boules puantes, style l'affaire du harcèlement sexuel et autres, vont venir? Et puis, est-ce que Biden est en état de faire campagne? Est-ce que c'est un bon homme de campagne? Il ferait peut-être un bon président. Mais pour faire un bon président, il faut d'abord être élu. Et on voit très bien que Donald Trump, en campagne électorale, c'est un formidable communicant. Il n'est pas certain que Biden le soit aussi performant. Et donc, mais on a vu, vous avez certainement vu que Barack Obama, qui maintient quand même une certaine réserve d'habitude, là, a très fortement critiqué la gestion de Donald Trump, qui, je veux dire, toute polémique mise à part, est quand même pas digne d'un responsable d'État.
Bien sûr. Est-ce que on pourrait imaginer, je ne sais pas si la Constitution américaine le permet, envisager qu'un garçon comme Andrew Cuomo, qui est le gouverneur de New York, qui lui a vraiment affronté la crise et est reconnu comme un grand leader politique aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il puisse revenir comme ça si Biden n'était pas en état de se présenter à la présidence ou
c'est
complètement
la politique
fiction.
Ouais. Disons que pour l'instant, puisqu'il n'y a aucun adversaire que Cuomo ne fait pas déclarer candidat. Ouais. Biden va être déclaré candidat du Parti démocrate à la convention qui va se tenir sous une forme ou sous une autre cet été. Mais si il y avait, un peu comme on l'a vu en France, si un candidat était trop encerclé par les affaires, et que le Parti démocrate démange Biden. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les accusations sont contestées. La personne qui accuse Biden ne veut parler qu'à Fox News, donc on peut penser qu'il y a une motivation politique extrêmement forte. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'affaires pour que Biden renonce. Mais tant que Biden veut être candidat et que le Parti démocrate ne le dérange pas, personne ne veut prendre sa place.
Très bien. Merci beaucoup, Pascal, nous avoir accompagné et éclairé un peu sur tous ces hommes politiques. Il y en a d'autres, évidemment. Le cas de Boris Johnson, même si lui n'a pas vraiment bien débuté la crise. Finalement, le fait d'être tombé malade, on a l'impression que ça lui a redonné la popularité. Et puis, il y a aussi le fou furieux qui dirige le Brésil, un certain Bolsonaro, dont on ne sait plus quoi penser. Et je ne sais pas si les Brésiliens pensent ce qu'ils pensent encore de leur président. Merci, Pascal. En tout cas d'être venu.
Merci à vous.
Sur RMC, à très bientôt. 10h47, Guillaume, dans un instant, on change complètement de sujet.
On parle du patient zéro, la première personne à avoir été infectée par le coronavirus. Vous restez avec nous, RMC, il est 10h47.
RMC, mobilisation générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
10h49 sur RMC. On va vous parler d'un terme que nous avons appris aussi à découvrir depuis le début de cette crise, celui de patient zéro. Le patient zéro, c'est évidemment le premier homme, le premier humain à avoir été infecté par ce virus. Alors, à l'échelle planétaire, on n'a pas encore de réponse bien claire, même si on a longtemps pensé que le premier humain à avoir été infecté l'aurait été dans ce fameux marché aux animaux de Wuhan, en Chine. Mais des patients zéro, il y en a eu ensuite dans tous les pays. Alors dans quelques instants, avec notre invité, professeur Cohen, on va essayer de comprendre à quoi sert de connaître l'identité des premiers malades et de savoir comment on retrace cette histoire. Avant cela, Guillaume, on va vous raconter des histoires, pas toujours faciles à vivre, celles de plusieurs patients zéro.
Oui, exactement, en compagnie de Lucas Vinois, qui est de retour parmi nous. Lucas, tu t'es intéressé à plusieurs histoires de patients zéro, des périodes pas toujours faciles à vivre pour ces personnes.
Oui, c'est un euphémisme. Laurent Chu était en Chine en janvier, il est considéré comme le patient zéro en France pour des raisons professionnelles. Il y était à son retour de Wuhan, il est fiévreux, transféré donc à Paris, s'en suit 22 jours d'hospitalisation et toute une batterie de tests. Il rentre ensuite chez lui, mais non, ce n'est pas terminé. Les journalistes font le pied de grue devant chez lui pour l'interviewer, une sorte de bête de foire. Des moments donc vraiment compliqués à vivre mentalement, en plus de toutes les analyses faites sur lui pendant des jours et des jours pour comprendre forcément un peu mieux ce virus.
Et schéma un peu similaire, Lucas, aux États-Unis, celle qui est considérée comme la patiente zéro a vécu aussi un véritable cauchemar.
Mathieu Benassi, son nom ne vous dit sûrement rien, c'est une cycliste qui a été sélectionnée en octobre dernier pour participer aux Jeux militaires de Wuhan. Une grosse chute dans la dernière boucle pour cette américaine de 52 ans, côte fracturée et grosse commotion. Mais le plus dur n'est pas là, elle est aujourd'hui la cible de cyberharceleurs chinois et américains. Côté chinois, elle est accusée d'être celle qui a importé le nouveau coronavirus en Chine. Côté américain, elle est accusée d'être patient zéro. Et pourtant, elle n'a jamais été testée positive au Covid-19. Elle vit aujourd'hui avec sa famille un véritable cauchemar, messages menaçants, lettres qui informent que certaines personnes vont demander l'exécution pour elle et pour sa famille. Pire, des vidéos de complotistes pullulent sur Internet, arguant que si elle est tombée, c'est parce qu'elle avait le souffle court, un des symptômes du Covid-19. Bref, le mal est fait. Partout sur Internet, elle est assimilée au patient zéro, même si ce n'est pas le cas.
Merci Lucas. Jusqu'à preuve du contraire, le patient zéro sur le sol français se nomme Amirouche Amar, habitant de Bobigny en Seine-Saint-Denis, qui aurait contracté le virus bien plus tôt qu'on ne le pensait, puisque c'est en décembre dernier qu'il a présenté les symptômes de la maladie. À l'époque, il se présente dans un hôpital de Seine-Saint-Denis. On ne connaît pas encore l'existence de ce Covid-19, et on va donc le soigner, mais pas pour ce qu'on pense être le Covid-19. Et quelques mois plus tard, finalement, après enquête, le professeur Yves Cohen, qui est chef du service réanimation de l'hôpital de Bobigny et qui est avec nous en direct, a remonté la trace pour montrer finalement que ce monsieur Amar était le patient zéro. Bonjour professeur Cohen, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Cette histoire est incroyable. Tout le monde pensait jusque-là que le patient zéro avait été infecté en février et se trouvait du côté de Bordeaux. Grâce à votre enquête, vous avez démontré que la première contamination date de bien plus tôt. Comment vous avez fait ? Est-ce qu'on est sûr désormais qu'il s'agit là du patient zéro ? On n'aura jamais la certitude absolue, j'imagine.
Oui, aujourd'hui c'est le patient zéro en France, mais je pense qu'il y a d'autres médecins qui vont faire les mêmes recherches et peut-être qu'on trouvera d'autres patients zéro. En fait, on est parti sur l'histoire de cette maladie-là, puisque les premiers cas en Chine sont apparus autour du 25 novembre et en décembre, il y a eu plusieurs cas. Et nous, on s'est dit, mais nous, on travaille en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Roissy, et tous les jours, il y a des avions qui viennent de Chine et de Wuhan. et peut-être qu'il y a eu d'autres cas qu'on ne s'est pas aperçu. Et donc nous avons repris tous les patients qui avaient une pneumonie virale hospitalisée dans le service de réanimation, pour lequel un diagnostic viral n'a pas été porté, puisque vous savez que, en fait, pour toutes les pneumonies qui viennent en réanimation, on fait une PCR, mais à l'époque, c'est une PCR pour la grippe, et pas pour le Covid-19, puisqu'on l'avait pas. Et on a repris donc tous les patients qui avaient une pneumonie dont le diagnostic viral n'a pas été porté, il s'agissait de 14 patients, et début avril, nous avons fait sur les échantillons que nous avons prélevés en décembre, donc la PCR pour le Covid-19. Et sur ces 14 patients, un était positif.
D'accord. Le 27 décembre, quand il débarque aux urgences dans votre service, personne n'a jamais entendu parler du Covid. On pense à une mauvaise grippe. Est-ce que malgré tout, il y a dans les services des urgences, de réanimation, des petits signaux qui permettent de s'intéresser, de penser qu'il s'agit d'un truc différent, d'un premier virus qui pourrait faire des dégâts. Comment?
Alors, on pense pas tout de suite à un premier virus. On arrive à faire dans 50 à 75% des pneumonies virales le diagnostic du virus. Mm-hmm. Là, on recherchait la grippe et malheureusement, ni la grippe ni d'autres coronavirus étaient positifs. Donc, on dit c'est une pneumonie virale et on arrête là habituellement.
D'accord.
On ne va pas plus loin. On n'a pas les moyens d'aller plus loin.
Ouais, on n'a pas les moyens d'aller plus loin. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, justement, pas à inventer, mais justement à mettre en place pour qu'à chaque fois qu'il y ait des choses qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, dont on n'arrive pas à connaître l'origine, il y ait des signaux d'alerte qui se mettent en branle?
Alors, justement, l'intérêt de faire des biobanks, c'est-à-dire qu'on garde les échantillons prélevés pendant un certain temps, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir revenir a posteriori sur des diagnostics qui n'ont pas été faits, refaire des examens spécifiques. C'est ce qui a été fait là. C'est vraiment l'intérêt d'avoir des biobanks.
D'accord.
Yves Cohen est avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Docteur, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir ces nouvelles connaissances par rapport à notre connaissance de l'épidémie, d'avoir prouvé que le virus était présent avant le mois de janvier en France? Est-ce que ça veut dire que cette épidémie était moins brutale qu'on le disait, par exemple?
Alors, vous savez que dans toute recherche médicale, c'est un tableau avec un pulse. Et chacun amène un morceau du pulse pour mieux comprendre son ennemi, c'est-à-dire le virus. Et donc là, probablement, on doit se dire que cette épidémie existait, probablement avait débuté, probablement non pas en janvier, mais en décembre, et peut-être que la vitesse de dissémination de ce virus est plus lente que prévu. Et donc ça peut nous aider pour les prochaines épidémies s'il y en a.
Oui, ça. Ensuite, est-ce qu'on parvient à remonter? Est-ce que dans le cas de Monsieur Amar, vous êtes parvenu à remonter la trace et être parvenu à savoir qui l'avait infecté et comment il avait été infecté, ou la trace s'arrête là?
Alors, en fait, nous avons une petite équipe pour pas faire des études épidémiologiques importantes, mais ce qu'on a pu voir, c'est que probablement c'est la femme qui a été asymptomatique ou très peu symptomatique, mm-hmm, qui a transmis le virus à son mari et à ses enfants. D'où provient le virus transmis à sa femme? Deux hypothèses. Comme elle habite à côté de Roissy, comme elle travaille à côté de Roissy, peut-être que des gens sont directement asymptomatiques du transmettre le virus, ou alors sont peut-être des collègues d'origine asiatique qui ont pu transmettre également le virus. Mm-hmm. Je pense que maintenant c'est aux instances un peu plus importantes comme l'ARS de faire des études épidémiologiques pour essayer de mieux remonter l'histoire de ce virus.
Et en revanche, on ne sait pas combien de personnes Monsieur Amar a pu contaminer. Est-ce que ça a été le début du cluster en Seine-Saint-Denis, par exemple?
Alors, on est en train de faire des recherches pour savoir s'il y a un cluster particulier autour de l'habitation de Monsieur Amar. Mais la chance que l'on a eue, c'est que Monsieur Amar a été assez fatigué et est resté assez longtemps chez lui sans se dépasser. Donc probablement, peut-être que ce virus-là s'est éteint chez lui.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur Cohen, d'être venu nous expliquer votre recherche du patient zéro. Donc, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il s'agit de monsieur Amar. Mais il ne faut pas le stigmatiser, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'affaire de cette sportive américaine qui est stigmatisée parce qu'elle est la patiente zéro considérée et aurait été contaminée de manière volontaire pour être introduite en Chine. On entend des trucs complètement dingues. Merci, en tout cas, d'être venu sur RMC. À très bientôt. 10h57 sur RMC, les infos de 11h arrivent dans un instant, Guillaume, et ensuite on part à l'étranger.
Oui, ils sont français mais résident à l'étranger, au Danemark, à Hong Kong ou au Maroc. Ils seront avec nous dans quelques instants pour nous parler de leur déconfinement. À tout de suite.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.